se préoccuper de la santé des femmes aussi bien que de celle des hommes. Ça semble évident, mais ce n'est pas le cas partout et pas depuis aussi longtemps qu'on pourrait croire.
Oui, c'est particulièrement vrai en ce qui concerne la sexualité, tributaire des mouvements de libération de la femme. Demain, d'ailleurs, c'est la journée mondiale pour la santé de la femme.
Et pour en parler, nous recevons la naturopathe Rina Nissim. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur du livre « Une sorcière des temps modernes, le self-help et le mouvement femmes et santé ». C'est un livre qui raconte à la fois votre parcours et puis à travers lui, l'histoire du droit à l'avortement, l'accès à la contraception, finalement la réappropriation des femmes de leur corps. Comment cette réappropriation a commencé et pourquoi finalement c'est indispensable à la santé ?
Bien, ça a commencé sur le constat, en fait, dans les années 60, le début des années 70, le droit à l'avortement n'était pas acquis, même le droit à la contraception n'était pas acquis, et donc il y avait vraiment un besoin de se réapproprier les choses qui ont à voir avec notre propre santé, oser reprendre les choses en main par nous-mêmes.
Et ça, c'est le mouvement self-help. Qu'est-ce que ça désigne ?
Bon, c'est le mouvement femmes et santé en général, si vous voulez. Et la démarche du self-help, c'est de se réapproprier sa santé. Ça veut dire d'employer ses 10 doigts, d'employer un spéculum avec un miroir, une lampe de poche, regarder comment on est faite et éventuellement peut-être reprendre une part d'autonomie sur les choses simples sur lesquelles on peut trouver des solutions par nous-mêmes.
Mais ça, c'était pas évident hein, dès le début.
Ben non, c'est pas évident, parce qu'on va un petit peu à l'encontre quand même de l'autorité médicale. On assiste aujourd'hui à nouveau à une médicalisation de l'accouchement, par exemple. Le taux de péridurale et de césarienne est étonnamment élevé. Donc voilà, on se rend bien compte que les choses qu'on peut faire par nous-mêmes, il faut peut-être se les réapproprier, parce que sinon on va être haché menu.
Il y a une question de confiance au médecin quand même. C'est parfois plus facile, on se connaît mieux que le médecin. C'est pour ça que c'est mieux de s'examiner soi-même.
C'est-à-dire que le médecin, si vous voulez, il a une formation qui est quand même très universitaire. Il a travaillé pendant de longues années sur des cas très graves. Et après, quand il se retrouve en cabinet avec des dames qui viennent avec des petits problèmes fonctionnels, il a tendance à répondre toujours avec sa haute panoplie de médicaments. Donc il réagit toujours comme si on était dans les choses très très graves, les minorités des cas. Et donc parfois, il y a un gros malentendu, si vous voulez, entre les attentes que les femmes ont pour les petits troubles courants de leur vie normale et les réponses surmédicales que les médecins ont à faire.
Que ce soit des médecins hommes ou des médecins femmes ?
Je crois que la profession s'est un petit peu féminisée ces dernières années, mais je crois que le cursus continue à être le même et il les formate d'une certaine façon.
C'est surprenant d'imaginer qu'il y a 40 ans, à Genève, on faisait des démonstrations publiques d'auto-examens gynécologiques. C'était une petite révolution, ça.
Absolument, c'était des États-Uniennes qui étaient venues de Californie nous montrer leur méthode. Elles voulaient également nous montrer la méthode d'aspiration des règles. Donc c'était une méthode justement pour essayer de changer le droit à l'avortement autant aux États-Unis que ici en Europe, on a en effet suivi. Donc oui, pour nous c'était absolument révolutionnaire.
Et puis aujourd'hui, parce que les jeunes femmes, est-ce qu'elles pourraient se retrouver à nouveau entre elles pour mener ce genre d'examen ? Ou alors justement, la médecine qui prend plus au sérieux la santé des femmes aujourd'hui qu'elle ne le faisait peut-être auparavant, bloque ce genre de mouvement ?
Non, je crois que le mouvement est nécessaire. D'ailleurs, il y a des jeunes femmes qui recommencent à faire ce type de pratique. Ça se passe bien en groupe, hein, c'est ça qui est intéressant. C'est pas toute seule dans son coin. Mais c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur du groupe. Donc ça libère un peu les langues, si vous voulez. Ça permet de parler de choses dont on parle peut-être pas spontanément. De choses qui ont à voir avec la sexualité, de choses qui ont à voir avec les relations avec les autres, peut-être parfois aussi aux rapports de pouvoir, qui sont pas toujours des choses très simples. Et ça, je pense, ça continuera à être nécessaire, quelle que soit la médecine qui nous accompagne.
Mais il faut oser quand même appeler des copines pour faire des auto-examens comme ça.
On peut faire des groupes de parole sur d'autres questions tout d'abord. Déjà de parler entre nous, de parler des sujets qu'on a en commun, suivant l'âge qu'on vit. Alors pour les unes, voilà, c'est la contraception. Pour les autres, peut-être plus tard, ce sera la ménopause ou d'autres choses comme ça. Déjà de mettre en commun la parole, c'est déjà énorme. Et puis après, peut-être de venir à la pratique, certaines y viendront, puis d'autres pas. C'est selon les intérêts et les capacités.
Alors le titre de votre livre, qui a été réédité plusieurs fois, rappelle qu'avant, les femmes qui connaissaient le secret des soins étaient prises pour des sorcières, certaines finissaient au bûcher. Ce terme de sorcière, finalement, vous l'aimez bien, vous ?
Là, je me le réapproprie volontiers, parce que c'est vrai que si j'étais née il y a 200, 250 ans, j'aurais été vraiment en danger, parce que je travaille avec les plantes médicinales, je ne vis pas avec un homme, je peux avoir des caractères ou des propos un peu rebelles parfois, j'aurais été la cible, en effet, de l'Église et de son association avec les médecins de l'époque, qui avaient une médecine qui n'était pas très efficace et qui voyaient peut-être d'un mauvais œil que certaines femmes aient des succès avec la phytothérapie.
À 3, c'est plus sympa. Format à 3.
Nous sommes avec Rina Nissim, avec qui nous parlons de la santé des femmes.
Parce que demain, le 28 mai, c'est la journée mondiale de promotion de la santé des femmes.
Rina Nissim, après avoir été active pendant plus de 40 ans dans ce combat, quel regard est-ce que vous portez sur l'évolution de cette thématique en Suisse ?
Écoutez, en Suisse, on a accès à la médecine dans des relativement bonnes conditions, donc ça c'est une bonne chose, si vous voulez. On a toutefois quand même quelques problèmes. On a un écart qui augmente entre les riches et les pauvres. On a affaire à un appareil sur l'austérité qui est assez redoutable et qui fait qu'on se retrouve avec un système de médecine à deux vitesses. Il y a des femmes qui ont accès à la médecine privée, d'autres qui vont aller uniquement dans la médecine publique, et là les choses ne s'arrangent pas forcément. Il faut avoir un certain rythme, une certaine rapidité, donc il peut y avoir de l'attente pour des opérations. L'écoute ne sera peut-être pas sensationnelle. Et ça, je pense que c'est toujours encore un problème aujourd'hui.
Vous défendez la relation avec le corps qui n'est pas une chose privée, mais politique, c'est encore le cas aujourd'hui, selon vous ?
C'est politique dans la mesure où, d'abord, il faut avoir cette confiance en soi, qui est déjà la première chose. Il faut l'avoir acquis avec l'éducation quand on était petite et en fille ou garçon, n'est-ce pas ? Et puis, par la suite, il faut aussi qu'on ait accès aux soins, tout simplement, à des soins de qualité. Et dans le monde, c'est pas partout pareil, si vous voulez. Il y a des pays où le risque de mourir au cours d'une grossesse ou d'un accouchement est de 1 sur 5 000. Donc c'est nos pays enrichis. Puis il y a des pays où c'est 1 sur 200, donc c'est des pays qui ont été appauvris. Et puis finalement, il y a des pays où il y a eu la guerre, où il y a eu vraiment des choses beaucoup plus graves, où c'est 1 sur 50. Vous vous rendez compte, c'est quand même des écarts qui sont assez dramatiques. Et ça, c'est véritablement politique.
Alors, cette journée de promotion de la santé des femmes, alors effectivement, elle est très utile dans certains pays où la santé des femmes est encore beaucoup plus en danger que chez nous. Mais chez nous, il faut rester attentif parce que vous le disiez, hein, la médecine à deux vitesses, c'est devenu une réalité aujourd'hui. Il y a un combat qu'il faut continuer à mener.
D'une part, et puis il y a aussi le problème de la médicalisation dont je parlais auparavant. Il y a certains moments de la vie qui sont médicalisés à outrance, comme la ménopause, comme l'accouchement. Et donc là, on voit bien qu'il y a des femmes qui vont se dire « Mais moi, j'ai pas forcément envie de ça. Peut-être je peux quand même accoucher par les voies basses, peut-être je peux même accoucher dans une maison de naissance ou au foyer si j'ai pas 5 enfants qui m'attendent derrière la porte. » Vous voyez, il y a peut-être encore des choses sur lesquelles il faut travailler pour le libre choix des femmes dans des bonnes conditions.
Vous pensez que le rapport au corps est très différent chez la femme que chez l'homme ? On a un autre regard sur notre corps et ça peut changer les choses aussi ?
Moi, je pense qu'on a beaucoup de choses en commun. Je pense qu'on regarde facilement dans nos gorges avec un abaisse-langue pour voir s'il y a des petits points blancs au fond et se dire, bon, c'est peut-être des streptocoques, il faudrait peut-être quand même que je prenne un antibiotique. Je crois que voilà, regarder au fond de son vagin pour voir si c'est une vaginite, si c'est une mycose, si je peux me débrouiller par moi-même ou si c'est vraiment que je demande une consultation médicale. Je pense que ça, c'est déjà une étape un peu plus difficile. Et chez les hommes, par rapport au cancer de la prostate, par exemple, ils sont beaucoup plus affirmatifs, ils se défendent beaucoup mieux face aux soignants quand on leur proposent des choses qui ne sont pas forcément extraordinaires, dont ils savent que les suites seront peut-être difficiles. Je pense que face au cancer du sein, les femmes sont beaucoup plus disciplinées, beaucoup plus serviles et qu'elles acceptent parfois beaucoup de choses qui vont leur faire une qualité de vie assez pénible par la suite.
Les renseigner à faire ça, à prendre soin d'elles-mêmes, c'est aussi une manière de les affranchir dans des contextes où c'est pas encouragé ou c'est même interdit d'être une femme et de prendre soin de son corps comme ça.
Par exemple, les règles, il y a beaucoup de soignants maintenant qui voudraient mettre les femmes sous pilule continuellement. Au fond, à quoi ça sert les règles ? C'est comme si les femmes devaient être comme les hommes, devaient être à l'emploi tous les jours, être toujours capables et qu'il n'y avait plus un jour par mois où éventuellement on aurait besoin d'un peu de repos. On veut plus faire de différence, quoi.
Mais en même temps, le fait de plus avoir de règles, pour certaines femmes, ça peut aussi être considéré comme une libération, parce qu'il n'y a plus de douleur, parce qu'il n'y a plus de préoccupation d'avoir ce qu'il faut sur soi ou dans son bureau, au cas où.
Oui, à court terme, on peut voir les choses comme ça. Le seul problème, c'est que rester sous pilule pendant de longues années augmente considérablement le risque de cancer du sein et des autres maladies hormonodépendantes, et que ça, il y a très peu de femmes qui le savent, quoi. Donc on a quand même l'augmentation du cancer du sein chez les femmes jeunes, on voit des femmes de moins de 40 ans maintenant qui sont atteintes, c'est quand même dramatique. Donc peut-être faudra ouvrir les yeux, peut-être qu'un cycle normal pendant un certain nombre d'années nous est aussi utile.
Vous avez voyagé beaucoup en Inde et en Amérique centrale, Rina Nissim, pour enseigner à des femmes à comment se soigner elles-mêmes. C'était des expériences très similaires ou différentes ?
C'était c'était assez similaire et différent. Bon, j'étais dans des populations, si vous voulez, désavantagées, hein, donc dans des quartiers pauvres ou en zone rurale en Inde. Mais ce qui est semblable, si vous voulez, c'est que dans ces situations, quand une occasion leur est donnée d'apprendre quelque chose, eh ben, elles n'hésitent pas. Elles n'ont pas, comme chez nous, des discussions pendant des heures pour savoir si c'est politiquement correct ou pas. Elles voient une opportunité, elles la saisissent, elles viennent. Et en effet, en très peu de séances, elles peuvent apprendre des choses simples par elles-mêmes, par exemple, mesurer un diaphragme, des choses vraiment simples dont elles peuvent se réapproprier pour une meilleure santé et plus d'autonomie.
Cette journée mondiale de la promotion de la santé des femmes, pour vous, elle continue à être indispensable ?
Alors, elle est très importante, on se l'approprie de façon différente dans différents pays. Dans certains pays, on centre beaucoup les choses sur la mortalité maternelle, dans d'autres, sur le droit à l'avortement. Tout dépendra de ce qui se passera à ce moment-là. Mais on a tout ce rendez-vous au même moment et cette solidarité ensemble.
Comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce sujet ?
Je pense qu'on voit déjà donc les jeunes générations être un petit peu plus affirmatives, être un petit peu plus capables de s'approprier de leur corps. C'est déjà encourageant et j'espère qu'on va continuer dans ce sens. Maintenant, ce que je crains, c'est l'austérité, c'est la situation économique qui s'aggrave et là, les différences qui vont augmenter et certaines femmes qui vont toujours avoir accès à des bons soins et d'autres qui vont rester sur le bord de la route. Et ça, c'est un grave problème.
Donc aujourd'hui, la lutte finalement, elle est au niveau politique et puis au niveau économique, lutter contre cette médecine à deux vitesses.
Oui, et contre ces mesures d'austérité et ces économies, alors que les riches continuent à s'enrichir tranquillement, se réapproprier tout ce qui est rentable dans notre société, et puis le reste, eh ben, ce serait pour les autres, et on diminuerait les impôts des riches, et on diminuerait bien sûr l'aide sociale, l'éducation et la santé, ce qui est un très mauvais calcul pour le futur.
Une sorcière des temps modernes, le self-help et le mouvement femme et santé. C'est le titre de votre livre inanissime, réédité d'ailleurs. On va mettre les informations sur notre site, sur la page de Format 3. Et on vous remercie beaucoup d'être passé dans notre émission ce matin.
Merci à vous et une bonne journée à tous.
Bonne journée.
Format 3 s'en va pour le week-end.
Oui, mais... je vais aller faire la vaisselle, moi.
Oui, c'est vrai qu'on vous a laissé la pile d'assiettes, là.
Voilà, exactement.
Et puis, on aura grand plaisir à vous retrouver lundi matin sur le coup de 8h10. Belle journée.
Bon week-end.
A3, c'est plus sympa. Format A3.